Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, la contestation perdure en Biélorussie. Un deuxième manifestant est mort hier depuis le début des manifestations. Des images de violence tournent sur les réseaux sociaux et les journalistes tentent de couvrir ces événements malgré les risques.
Après quelques secondes d'une explosion meurtrière sur le port, il faudra des mois pour reconstruire Beyrouth. Le Liban a besoin de ciment et de verre. Les travaux sont énormes. Reportage dans les décombres.
Les cas de Covid-19 augmentent encore en France et les autorités se demandent comment faire de la prévention auprès des jeunes. Chez les 20-30 ans, les contaminations se multiplient.
Le comité social et économique de la compagnie aérienne Hop se poursuit. Les syndicats estiment qu'Air France profite de la crise économique, sanitaire, pour accélérer son plan de départ volontaire. Près de la moitié des postes chez Hop risquent d'être supprimés.
Alexandre Loukachenko entraîne son pays vers la guerre civile. Ces mots très forts viennent de la prix Nobel de littérature biélorusse Svetlana Alexievitch, en colère après la réélection du président au pouvoir depuis 25 ans. Depuis dimanche, les manifestations se succèdent en Biélorussie et à chaque fois la police réprime, la violence monte d'un cran. Un deuxième manifestant est mort hier, des rassemblements couverts avec difficulté par les journalistes, car dans ce pays, la liberté de la presse est loin d'être garantie, Benjamin Recouvreur.
Ils n'ont pas été nombreux à avoir été accrédités par le pouvoir pour couvrir l'élection de dimanche. Aujourd'hui, les journalistes présents à Minsk ont le sentiment d'être pris pour cible. Andrei Vaitovitch est franco-biélorusse et il couvre les manifestations anti-gouvernementales.
Il y a quelques jours, une journaliste locale a été blessée par balle en caoutchouc lors d'une manifestation. On voit bien que la police a obtenu une sorte de carte blanche, déjà contre les manifestants, mais aussi contre la presse.
La peur, l'angoisse, désormais, accompagnent les journalistes présents sur place.
Regarde, parce qu'il y a une voiture banalisée. Donc au moment qu'on se parle, la peur, elle est omniprésente.
Car au-delà des violences en manifestation, beaucoup de journalistes sont intimidés par les forces du régime. Andrei Vaitovitch.
Certains journalistes font arrêter en sortant de leur hôtel. Certains journalistes sont arrêtés à leur domicile. Et tous les jours, on a une dizaine, vingtaine de journalistes arrêtés. On n'a jamais vu telle vague de répression, telle violence contre la presse et contre les manifestants pour la plupart pacifiques.
Pendant plusieurs jours, le travail des journalistes a aussi été compliqué par un accès à Internet très perturbé. Aujourd'hui, le réseau semble être en partie revenu et de plus en plus d'images de la répression affluent sur les réseaux sociaux.
Et nous reparlerons longuement de cette contestation dans les matins d'été à partir de 7h40. Hier, lors d'une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé par la situation dans le pays. Après le chef de l'État français, c'est au tour de Florence Parly de se rendre à Beyrouth. La ministre de la Défense est attendue cet après-midi. Elle précède l'arrivée d'un navire militaire français avec à son bord des hommes, des vivres et du matériel de reconstruction. Le verre et le ciment commencent à manquer. Illustration dans le quartier de Gemaizé, proche du port et ravagé par l'explosion. Aurélien Colli.
Assise devant son immeuble à la façade en lambeaux, Zeyna, la cinquantaine, fixe deux déménageurs qui embarquent une table qu'elle a pu récupérer.
J'ai été obligée de louer un appartement pour sauver un petit peu de meubles et habiter, parce que c'est inhabitable maintenant. Toutes les pièces, il y a des fissures dans les murs, plafond, tout. Il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est inhabitable.
En attendant les travaux, ce sera une location dans Beyrouth pour Zeyna. Mais pour son voisin, ce sera loin de la capitale, balafré et traumatisé. Et même si lui a pu faire les premières réparations.
Les vitres, c'est fait. Les portes en construction. Tout ce qui est air conditionné, chauffage, des trucs comme ça. Peinture. Ça va prendre un peu plus de temps. Octobre, novembre, donc on déménage à la montagne pour un mois à peu près et on verra bien.
Dans l'immeuble d'à côté, à peine moins dévasté, on déblaye encore les gravats et les morceaux de métal. Mais le départ n'est pas à l'ordre du jour. Au rez-de-chaussée, Elias espère même rouvrir rapidement sa boutique de vêtements.
On est resté deux jours là à dormir dans le magasin. On a fixé d'abord la porte électrique et maintenant on attend. Jusqu'à nouvel ordre, on n'arrive pas à avoir les vitres et tout ça. Il y a un manque, il y a trop de demandes. On nous a dit peut-être que demain, ils pourront commencer à fixer. On l'espère bien.
Au-dessus, dans les étages défigurés par l'explosion, il y a aussi Michel, 81 ans. Lui, c'est de la main-d'œuvre qu'il a du mal à trouver, mais pas question pour autant de s'en aller.
Mon appartement est détruit. Il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de portes, il n'y a plus rien. On cherche des artisans pour construire. Ça prend du temps.
Et en attendant, vous restez dans votre appartement, vous ?
Dans l'appartement. On a tout enlevé, les saletés et tout. On peut dormir, oui.
Le reportage d'Aurélien Colli à Beyrouth. Le duo démocrate va-t-il s'installer à la Maison Blanche ? Joe Biden et sa colistière tout juste nommée Kamala Harris se sont officiellement présentés hier en tandem lors d'un premier discours à moins de 3 mois de l'élection présidentielle américaine. Le candidat démocrate et la sénatrice de Californie ont promis de reconstruire ensemble l'Amérique après Donald Trump. « Je n'ai aucun doute d'avoir choisi la bonne personne pour cette élection vitale », assure Joe Biden.
France Culture 7h06, Margot Delpierre, les cas de Covid-19 se multiplient en France.
Plus de 2500 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, soit une progression inédite depuis le mois de mai. Les indicateurs de suivi de l'épidémie sur le territoire montrent une nette dégradation au cours des derniers jours, selon la Direction Générale de la Santé. Les jeunes ne sont pas épargnés, les cas ont même augmenté de 45% chez les 15-44 ans la semaine dernière. Le virus circule particulièrement chez les 20-30 ans. Alors les autorités sanitaires revoient leur campagne de sensibilisation et de communication. Elles tentent d'attraper ce public jeune et sociable, Bénédicte Robin.
Cibler sans stigmatiser, l'enjeu est délicat pour les agences régionales de santé qui cherchent le bon ton et la bonne plateforme pour se faire entendre.
Sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook aussi, pour les moins jeunes peut-être.
Stéphane Muliez est le directeur général de l'ARS de Bretagne, où plus d'un quart des nouveaux cas identifiés ont entre 15 et 25 ans.
Avec des messages conviviaux, vous allez faire un pique-nique, faire une soirée sur une plage, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières.
D'après leurs estimations, ils peuvent potentiellement toucher quelques 500 000 Bretons connectés et sans doute au-delà des frontières de la région grâce au soutien de ce qu'on appelle les influenceurs, artistes, youtubeurs, sportifs.
Bonjour à tous, c'est Dardo Kamavinga.
Comme ici le jeune milieu de terrain du Stade Rennais
face à la recrudescence de la Covid-19.
Rappelant les bons gestes, masque sur le visage dans une courte vidéo.
Je me lave les mains régulièrement.
Des bons gestes rappelés aussi en vrai comme en Occitanie où l'ARS en partenariat avec les municipalités a affrété un minibus.
Qui se déplace entre le Gros-du-Roi et Argelès donc dans 8 villes.
Jean-Jacques Morfois, c'est le directeur général adjoint de l'ARS Occitanie.
Il va s'installer à proximité des commerces, de la plage. Ce sont des animateurs, de jeunes animateurs, qui ont le contact très facile, qui ont le langage. On a plusieurs centaines de personnes par jour. Ça permet de faire passer le message.
Message de prévention et aussi d'incitation à se faire tester.
Et le gouvernement prépare une campagne nationale à destination des jeunes pour leur rappeler les gestes barrières. Les syndicats n'ont pas attendu la fin du CSE de Hop pour réagir alors que le comité social et économique continue aujourd'hui à Nantes. Ils s'inquiètent du plan de départ volontaire proposé par la direction d'Air France. Elle souhaite supprimer près de la moitié des postes dans sa filiale régionale, concentrer les activités à Roissy et Lyon et fermer plusieurs sites techniques comme Lille et Morlaix. Les syndicats dénoncent la stratégie du patron d'Air France, Ben Smith, qui selon eux utilise la crise actuelle pour se débarrasser de la compagnie aérienne, Maxime Fayol.
À son arrivée à la tête d'Air France, Ben Smith avait pour but de restructurer Hop, alors en déficit. À aucun moment les syndicats ne s'attendaient à un plan d'une telle ampleur. Joël Rondel est délégué CGT chez Hop. Il estime que la crise sanitaire a permis au patron canadien d'accélérer le démantèlement de la compagnie.
Je pense qu'il utilise la crise pour faire payer le plan social par le contribuable, ça c'est sûr, et il accélère par rapport à ça, parce qu'en sachant que c'est pas Air France qui le paiera. Donc au lieu de le faire sur plusieurs années, il le fait sur 6 mois.
Autre argument qui permet à Ben Smith de justifier ce plan, c'est l'interdiction des vols courts lorsqu'une liaison en train inférieure à 2h30 est possible. Un argument irrecevable pour Marc Fradet du syndicat Flight Union Cockpit.
D'un côté, en tant que délégué syndical, j'ai la volonté, le souhait, le désir de sauver un maximum d'emplois, donc j'aurais tendance à dire, je vais être assez cru, tant pis pour l'écologie, moi ce que je veux c'est de sauver les emplois. Mais dans la réalité, il supprime 3 lignes. Si on veut vraiment avoir un plan écologique pour l'aérien, il faudra aller bien au-delà de 3 lignes, je pense que ça me paraît évident. Après, il faudrait avoir un vrai discours sur aujourd'hui l'utilité du court courrier, son impact écologique et est-ce que ça a du sens aujourd'hui, le maillage hexagonal tel qu'il existait, quoi.
Les syndicats craignent désormais la seconde lame, une suppression pure et simple de Hop à la fin du plan social dans 3 ans.
Maxime Fayol. Il n'y a plus aucun département en alerte rouge. Canicule, Météo France en maintient 21 de l'est de la France en vigilance orange. Des coups de tonnerre et des averses sont attendus sur une grande partie du pays. Les températures sont en baisse et les nuits un peu plus fraîches. Comptez dans l'après-midi 27 degrés à Paris et Lyon, 28 à Belfort, 22 à Biarritz et 32 à Ajaccio.